Seb, comment vas-tu?
Ça va très bien, Émile. Car on part en road trip et on amène notre cabaret des curiosités du web dans plusieurs villes du Québec au cours des prochains mois. Dans ces shows live, on explore de drôles d'histoires qui parfois nous font rire et parfois nous terrorisent. Les histoires changent à chaque show.
Le tout débute à Gatineau le 27 avril dans le cadre du Festival Transistor. Après, on se retrouve à Shawinigan le 13 juin au Wabasso avec nos amis de Côté Sombre. Et le 11 juillet, on se retrouve à Longueuil dans le cadre du Comic Fest à la salle Fanplast. Les billets sont en vente pour tous ces shows-là et d'autres dates risquent de s'ajouter sous peu, donc restez à l'affût.
Rendez-vous au distorsionpodcast.com pour connaître toutes nos dates et vous procurer des billets. Si vous souhaitez que Distorsion passe faire un tour dans votre région, écrivez-nous. On a vraiment hâte d'aller à votre rencontre.
De retour à votre programme principal.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... des histoires étranges de l'ère numérique.
Sébastien Lévesque, comment vas-tu?
Ça va bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien parce qu'aujourd'hui, en fait, on a une livraison spéciale de bière mexicaine. En fait, c'est notre spécial, notre épisode bonus avec Victoria Charlton, la YouTuber qui s'intéresse au phénomène de true crime et au mystère. Et elle nous a amené, elle nous a smugglé là, du Mexique une magnifique IPA qu'on appelle la Mano Panchora. Ça semble assez intéressant. C'est une IPA à 7% d'alcool et tu disais, Seb, à IBU de 55.
Oui, de 55. Donc, elle a un peu moins d'amertume que, si on veut, des IPA plus amères. Mm-hmm. Ce qui fait qu'elle a un goût un peu comme une brune, en fait.
Oui, c'est vrai.
Puis elle est excellente. Moi, je la trouve très, très bonne. Puis l'autre point qu'on trouvait quand même intéressant, c'est que c'est une IPA du Mexique. On s'entend qu'il y a peut-être 5 ans, des IPA, je suis pas certain qu'on en retrouvait au Mexique. Et c'est vraiment une tendance qu'on voit qui est rendue mondiale dans la fabrication de bière, même dans l'intérêt des buveurs de bière.
Pas évident à trouver au Québec, celle-là, malheureusement. Et justement, autre chose, aujourd'hui, c'est notre spécial bonus avec Victoria Charlton. Donc, c'est une chance pour nous. Elle vient pas au Québec très souvent. Non. Donc, on la remercie d'avoir pris là une journée pour venir enregistrer avec nous. Le concept, c'est simple. On a fait une collaboration vidéo avec elle. Donc, au moment où vous nous entendez, là, au moment où vous écoutez nos belles voix en ce moment, vous pouvez aussi aller sur la chaîne de Victoria Charlton.
Et voir nos belles faces.
Oui, et voir nos magnifiques visage de top modèle à moi et Sébastien. Donc, on a abordé une histoire exclusive avec elle, qui est l'histoire de Skylar Knees. Vraiment, une histoire assez fascinante, bourrée de traces numériques aussi. Donc, ça risque d'être très intéressant. Allez surveiller ça. Et si vous voulez encourager le show, si vous voulez encourager Distorsion, un peu comme Victoria l'a fait, mais que vous voulez pas nécessairement amener de la bière de contrebande dans vos bagages, eh bien, vous pouvez le faire via notre tournée de bière au distorsionpodcast.com. Donc, il y a un onglet tournée de bière, vous vous rendez là-dessus et vous pouvez faire un don et encourager le show.
Oh yeah! On a aussi un shout-out 5 étoiles sur Apple Podcasts qui nous vient de Mr. Jig. Qui nous dit « Meilleur podcast franco! Des histoires étranges, fascinantes et captivantes, livrées par deux excellents animateurs sans prétention. »
Ouais, ben la prétention, elle en a un peu quand même.
Ouais, non, c'est ça. On n'est pas n'importe qui. « Les petites erreurs laissées au montage en sont la preuve et me font toujours rire. » Et je te fais un shout-out spécial à toi, Mr. Jig.
Yes. Et si vous voulez nous suivre, on est partout. On est sur Facebook, Distorsion Podcast, sur Instagram, même chose. Sur Twitter, Distorsion Pod. Et aussi sur Untappd, ce réseau social de bière. Donc, Distorsion Podcast, c'est là qu'on met nos bières de la semaine. Et vous pouvez nous donner un cheers à notre santé. Aujourd'hui, pour le show, on va aborder plusieurs sujets. On a Victoria avec nous. On a eu plusieurs questions de nos auditeurs, ouais, de ses fans à elle aussi. Mm-hmm. Donc, on mélange tout ça. On va avoir plein de questions pour elle. Et aussi, ce qui est fascinant, c'est qu'on a abordé des sujets assez similaires au fil du, ouais, temps. On a parlé, entre autres, de Elisa Lam, de Maura Murray. Je sais que Victoria est une grande fan, ouais, de cette histoire-là. On a parlé de plein de choses, de l'effet Mandela. Donc, mm-hmm, on va profiter de cet épisode-là pour couvrir plusieurs de ces sujets-là, puis revenir un peu sur les théories qu'on a en, ouais, commun, ou même les théories qui s'opposent, en fait.
Oui, effectivement, on va voir.
Donc, restez avec nous. Seb, est-ce que tu es prêt à te plonger dans cette entrevue fascinante?
Oui, monsieur.
Allons-y. Oui. Nous sommes maintenant accompagnés de Victoria, oui, Charlton. Victoria, comment ça va?
Ça va bien. Merci de me recevoir ici parmi vous.
C'est un plaisir.
Oui, vraiment.
Explique-nous donc, là, tu es au Québec pour parce que tu es originaire du Québec, en fait. Tu es originaire même de la ville de Québec. Et là, tu es à Montréal avec nous, mais tu habites au Mexique. Donc, démêle-nous donc un peu tout ça, là.
Est-ce, ouais, que tu fais de l'importation illégale, non, de tacos?
Je me fais tout le monde... aux douanes, je me fais toujours arrêter que... Ouais, pourquoi t'es au Mexique? Parce que j'ai l'air d'une fille qui vend des trucs au Mexique. Mais non, en fait, je suis au Mexique, ça fait 3 ans, je suis professeure de français. Et je suis partie parce que je suis tombée en amour avec un Mexicain du, oh, Nord, ouais. Puis, ben là, on va se marier cette année. Puis, ben c'est ça, je viens 2 fois par année au Québec pour visiter ma famille et tout.
J'aimerais commencer tout de suite par une petite question pour toi, Victoria. En fait, j'aimerais que tu nous parles un peu de tes débuts sur YouTube, parce que, ben évidemment, YouTube, c'est là où on te retrouve. T'es sur Instagram aussi, mm-hmm, sur Facebook, un peu partout, mais tu te décris comme une YouTubeuse. Donc, comment est-ce que ça t'est venu, cette idée-là, là, de commencer à faire des vidéos sur YouTube?
Ouais, ben en 2016, en fait, j'ai commencé. J'ai toujours voulu faire quelque chose, genre partager des idées. Et en 2016, j'ai dit, genre, pourquoi pas, je vais me partir une chaîne. Puis je voulais, au départ, rire un peu, genre, des Québécois, je sais pas, me moquer de tout le phénomène influencer. Et j'ai décidé de parler... Je suis tombée sur l'histoire de Elisa Lam, et j'ai décidé de parler d'elle dans une vidéo, puis ça l'a... J'ai vraiment aimé ça, puis j'ai dit, je veux en faire plus. Et c'est ça, là, je pense que les gens ont beaucoup aimé le phénomène Fridays et tout.
Ben là, en fait, on a une surprise un peu pour toi. On a déniché ta première vidéo sur YouTube et on va vous la faire entendre pour que vous compreniez un peu de d'où est partie Victoria, en fait. Et ma question suivante, ça va être comment es-tu partie de ce type de vidéo-là pour en arriver aux vidéos de crimes et de tueurs en série. Donc, bon. Petit extrait sonore.
J'ai remarqué que sur Instagram, les Québécoises étaient vraiment, vraiment faciles à spotter. D'ailleurs, un peu trop facile, même qu'on se rend compte qu'on n'est pas vraiment original. Puis j'ai remarqué aussi qu'il y avait plusieurs Québécoises qui avaient au-dessus de 20 000 followers. Moi, j'en ai 3 000, puis je trouve que j'en ai pas mal. Puis ça, c'est parce que je passe mon temps à liker des photos d'inconnus pour avoir des likes. Voici la Québécoise typique en 30 photos. Reste à l'écoute et on verra si vous vous reconnaissez.
Moi, j'avais bien aimé cette vidéo-là. Ça m'avait bien fait rire. Mais justement, comment en es-tu venu à partir d'une vidéo un peu plus humoristique comme ça, puis à parler de true crime et de phénomènes mystérieux?
Quand je suis tombée sur l'histoire d'Elisa Lam, mm-hmm, et j'ai tellement été choquée par son histoire, j'ai dit, faut que je partage ça. J'ai été obsédée par elle. Je pense que j'ai regardé des vidéos sur elle pendant 3 jours de temps. Je racontais l'histoire à tout le monde. J'ai dit, il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Puis je me suis rendu compte que j'adorais faire des recherches. Les gens répondaient assez bien à ce type de vidéos. Puis il n'y en avait pas beaucoup en français, donc ça a été une belle opportunité.
Tu te distingues beaucoup des autres YouTubeuses, YouTubers, en particulier au Québec, puis surtout pour ton intérêt versus les histoires qui sont quand même assez sordides. Ça t'est venu d'où cet intérêt-là envers les crimes, les disparitions, les phénomènes de conspiration? Est-ce que même jeune, t'étais une fan de ça? Est-ce que t'écoutais de ce genre de est-ce que t'écoutais des documentaires ou des choses comme ça? Est-ce que c'est nouveau, cet intérêt-là?
Non, ben je pense que tout a commencé, c'est vraiment la disparition de Julie Surprenant, je sais pas si vous en rappelez.
Ben oui, bien sûr. Oui.
Des,
oui,
années 90, ça m'a tellement marqué, là, j'avais vu des photos d'elle partout, puis on en parlait. J'avais peur, pas du gars qui l'avait probablement kidnappé, j'avais peur de Julie Surprenant, je voyais sa face partout, puis ça me fait... Puis elle est belle, là, c'est pas parce que...
Non, non.
Mais genre, j'avais peur, et je pense que on recherche... Tout le monde aime ça un peu, tout ce qui, ouais, est... morbide et personne veut se l'avouer, mais il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Et ben les crimes, j'en parlais beaucoup, je lisais toujours des histoires de crimes et Ben, je me suis découvert une passion, là, j'imagine, comme vous, simplement.
Est-ce que t'écoutais les documentaires à Canal D et ces choses-là?
Ouais. Ouais, vraiment, vraiment. Genre, un tueur si proche. Et...
Oui, ben oui.
Dossier mystère.
Ouais, ouais. Vraiment, je suis fan.
Quels ont été, tu nous as parlé d'Elisa Lam, qui vraiment qui t'a donné envie de te lancer là-dedans, puis de l'histoire de Julie Surprenant. Ça a été quoi tes premières vidéos de ce type-là que t'as publié, tes premiers cas là, que tu as couverts?
Ouais, je pense, ouais, c'était Elisa Lam. Ensuite, j'ai parlé de John Benet Ramsey. Ça, c'est une histoire assez folle aussi.
Oui.
L'un des plus gros mystères. J'ai parlé de Lars Mitting. Je pense que vous en avez pas parlé, vous.
Non,
on en a pas parlé, mais on connaît.
C'est
une
histoire vraiment intéressante. Et j'écoutais d'autres YouTubeurs en anglais qui faisaient, je sais pas si vous connaissez Top 5 ou en tout cas.
Oui, oui, oui.
Ouais. Et ben, j'ai vraiment aimé ce style-là, puis c'est ça qui m'a poussé.
OK.
Ouais.
Parce que ce que je trouve qui n'a pas changé entre ta première vidéo et tes vidéos actuelles, c'est ton authenticité.
Ah, merci.
En fait, tu as le même... Je trouve que tu te prends pas au sérieux, mais dans le bon sens du terme, là. Toi non plus, tu n'hésites pas à laisser des erreurs ou il y a plein tu te mélanges dans les mots, même tu me fais penser à moi, là. Souvent, tu n'es pas sûr de quel mot dire.
Donc, mais ça, il y a des chiens qui apparaissent.
Oui, non, exact. Mais ça, j'aime ça, puis je me rends compte, parce que je l'avais jamais vu, moi, ta première vidéo, puis je me rends compte que ça, c'est là depuis le jour 1.
Ouais.
C'est vraiment bien, tu t'es pas dénaturé avec le succès.
Mais en même temps, faut pas se prendre au sérieux sur YouTube. Là,
ben non, en fait, puis moi je trouve que justement, c'est ce qui, quand on a une couleur, une personnalité, c'est ce qui fait que les gens nous aiment aussi, au-delà des histoires qu'on raconte.
Exactement, c'est ça.
Nous, on le sait que tu fais beaucoup de recherches. Ça ressemble à quoi le temps que tu mets là-dessus?
Ouais, ben je sais pas pour vous, mais moi je passe beaucoup de temps sur Wikipédia, là, puis c'est vraiment pas une bonne source à la base, mais souvent, je vais avoir un sujet que des abonnés m'ont recommandé ou une histoire qui m'intéresse. Je vais lire l'histoire, le bon résumé de l'histoire sur Wikipédia. Ensuite, je vais regarder des documentaires. Je vais aller sur Reddit à fond. Je suis toujours sur Reddit. Et je te dirais un bon 5-6 heures par histoire, sinon plus. Ça dépend des histoires, c'est sûr. Oui. Mais j'aime ça, essayer de trouver des... Parce que beaucoup... Souvent, les vidéos de disparition ou de meurtre, d'autres YouTubeurs vont en parler, mais ils vont aller quand même à la surface. Puis j'essaie toujours de trouver le détail que personne n'a dit. J'imagine que vous aussi.
Oui.
Pour différencier.
Ce que tu peux apporter à la conversation, finalement.
Ouais, exactement.
Puis tu publies plusieurs vidéos par semaine, en fait. Tu es encore plus active que nous, là.
Ouais, deux fois par semaine. Fait que c'est sûr que
quand même,
c'est beaucoup de travail, beaucoup de recherches, mais c'est ma partie préférée, faire les recherches, là, de faire des vidéos. Fait que ça me tanne pas, là.
Est-ce que tu lis des romans criminels ou même des autobiographies ou des choses comme ça?
Oui, ça dépend des histoires, là, mais je sais que, par exemple, la tuerie de Columbine, tout le monde me demande toujours d'en parler. Puis j'ai lu le livre, je sais que je veux le relire parce que dans les livres, je pense que c'est là qu'il y a le plus de détails.
Ben oui.
Et ouais, c'est ça. Non, oui, je lis beaucoup de livres, là. J'en lis au moins un par 2-3 mois sur le sujet.
Si tu devais te choisir un pet case, là, ou du moins un cas que tu aimerais vraiment voir résolu.
Ben vraiment, Maura Murray.
Ouais, j'étais certain.
Je pense que c'est le pet case de tout le monde. Même que dans mes cours, je donne des cours de français, puis j'ai une classe de BI, donc une classe de français avancé. Même que dans les cours, je leur ai montré une vidéo de YouTube, ma vidéo YouTube avec des sous-titres en espagnol ou en anglais.
Oui, oui.
Et je leur ai demandé pour leur travail, leur projet partiel, de faire une recherche puis de me dire leur théorie, puis ça m'intéressait vraiment, là, ouais.
Ah, c'est intéressant comme cas.
Ouais.
Justement, ben, parlant de Maura Murray, parlant des cas que t'aimes beaucoup rechercher, en fait, ça m'amène un peu à discuter à certains cas qu'on a en commun, qu'on a couvert chacun, là, autant à Distorsion que du côté de ta chaîne. Puis j'aimerais ça qu'on en aborde quelques-uns, en fait, parce que je sais qu'il y a plusieurs de nos auditeurs qui aiment bien avoir l'opinion de plusieurs personnes sur les cas. Et puis on vous invite à en discuter sur le groupe Facebook si vous le souhaitez. Revenons là sur quelques cas qu'on a couverts en commun, dont justement Elisa Lam, bon, cette première histoire que t'as couvert. Parle-nous-en un peu, en fait. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette histoire-là?
Ben, je trouve que cette histoire-là, tu peux prendre tellement de directions, genre, vous aussi, vous j'imagine, la maladie mentale, le meurtre, même le paranormal, tu peux trouver un aspect paranormal.
Puis tu peux les mélanger ensemble, en plus.
Oui. Puis c'est pour ça qu'on s'en sort jamais, finalement. Oui, en fait, Elisa Lam, c'est une jeune fille, une jeune Canadienne qui est partie en voyage. Je pense qu'elle était écœurée de l'école ou elle a pris un petit un petit temps là pour partir en voyage à Los Angeles. Elle est restée à l'hôtel Cécile, que ça l'a vraiment surpris tout le monde parce que c'est un hôtel qui a son lourd passé au niveau du dark et du crime. Et aussi, c'est dans le quartier Skid Row qui est assez pauvre, assez trash. Puis c'était une jeune fille de quoi, 22 ans. Et elle a disparu. Il y a la vidéo qui est sortie, la fameuse vidéo dans l'ascenseur qui a troublé tout le monde, moi de même. Je peux même pas la regarder encore aujourd'hui. Là. Je la regarde, puis ça me donne... Et finalement, après quelques jours, les clients de l'hôtel se plaignaient que l'eau du robinet goûtait mauvais, sortait noire. Et finalement, ils ont trouvé Elisa Lam dans le tank d'eau de l'hôtel. C'est vraiment incroyable. Nue, à part de ça, non?
Ses vêtements étaient enlevés.
C'est une scène assez assez mystérieuse qui nous a bluffé un peu tout le monde. Ouais. Puis justement, quelle est ta théorie à ce sujet-là?
Mais c'est vraiment difficile parce que, comme j'ai dit, j'ai observé tous les aspects, même le paranormal. Je sais pas si vous avez entendu parler du jeu de l'ascenseur.
C'est-tu avec une femme, là? La théorie que j'avais, c'était... il y a un jeu de mère-enfant, quelque chose comme ça, qui jouait avec ça. C'est pas cette théorie-là?
Le jeu où tu as une séquence de boutons à faire, puis à un certain moment, tu rencontres une dame qui entre dans l'ascenseur et ça t'amène dans une autre dimension. Là.
Moi, je pense qu'elle a eu un épisode de maladie mentale parce qu'elle était bipolaire. Puis la bipolarité, on sait que ça peut t'amener à avoir des hallucinations. Et aussi, je sais pas si vous en aviez parlé, que vous aviez vu qu'elle avait laissé des post-it à sa colocataire dans sa chambre. Là. C'était des chambres partagées. Des post-it genre « get out », genre « part de ma chambre ».
Ah oui, ok.
Je sais pas si...
Ça me dit rien du tout, non?
Non, elle avait laissé... Puis même qu'il s'était plaint de Elisa Lam dans la chambre, la fille avec qui elle habitait, elle avait dit « non, je veux plus
ça, je savais qu'il l'avait transféré de chambre parce qu'il y avait une plainte, mais je savais pas au niveau des post-it.
Oui, elle laissait des post-it « get out », Et je pense que c'est ça, c'est un épisode de maladie mentale. Puis dans la vidéo, on voit bien, là, elle fait des mouvements de main. Moi, j'ai l'impression qu'elle parle à quelqu'un qu'on ne voit pas, puis elle a envie de proposer d'aller nager parce qu'elle fait ça, ou genre des mouvements de main. On dirait qu'elle dit « allons nager », puis peut-être qu'elle a eu une folie, un moment de folie, est allée nager sur le toit, et c'est ce qui s'est passé, je crois.
Ah oui, j'avais jamais pensé à ça que parle. Donc, tu crois que de son propre gré, elle serait montée dans la tank pour nager?
Ben, c'est pas si difficile.
Effectivement, ça peut faire du sens. Puis, dans le fond, elle est restée coincée, puis elle est peut-être morte tout simplement par sa faute.
Ouais. Là,
j'avais jamais figuré ça comme ça, effectivement.
Ça se pourrait. Ben, je sais pas, c'est le truc le plus rationnel, je crois, mais c'est sûr que ça peut être. D'autres théories.
Mais tu nous disais que tu croyais peut-être aussi qu'il y avait un employé de l'hôtel qui était impliqué.
Aussi, oui, parce que je pense que c'est difficile d'accéder au toit. Aussi, je sais que dans la vidéo, il y a un petit bout qui est effacé, non? Les numéros, ça
ouais, ben, la pas. La police ont édité, en fait, avant de le rendre public, ont édité la photo de surveillance, qui reste aussi un mystère sur le pourquoi avoir édité
oui,
ça.
Exactement.
Les courtes séquences, je vois pas qu'est-ce que ça enlève ou que ça...
Ça
ou ça ajoute à ça. Donc, il y a une raison en arrière de ça, puis elle n'est pas naïve, là, selon moi. C'est aussi quelque chose.
Mais peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la vidéo
exactement.
Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Ben, de plus en plus, j'ai refait quelques recherches récemment là-dessus, puis on dirait que moi, je crois à la thèse officielle, je dirais, comme quoi c'est une noyade accidentelle avec la maladie mentale ayant joué un rôle important. Par contre, il y a plusieurs pièces du puzzle qu'on n'a pas. Puis une de celles-là, moi, qui m'obsède un peu plus depuis quelque temps, c'est l'amie d'Elisa Lam.
Ouais.
Parce qu'elle est allée à LA et puis elle a rencontré un ami. Elle l'a dit sur son Tumblr, elle dit à un certain moment donné, j'ai perdu mon téléphone cellulaire et là maintenant, j'ai le vieux BlackBerry que mon ami m'a prêté. Bien, il est où cet ami-là,
Est-ce qu'il a été interviewé par la police ou vous savez pas?
On le sait pas qu'on le sache. Puis aussi, Elisa Lam, en fait, elle est restée à Los Angeles 2 jours avant de checker in au Cecil Hotel. Donc, elle était où pendant ces deux jours-là? Parce qu'encore une fois, elle écrit sur Tumblr à un certain moment donné, lorsqu'elle est à Los Angeles, mais qu'elle n'est pas encore au Cecil Hotel, il y a un building monstrueux juste en face d'où j'habite. Ça me fait penser à une architecture de type Gaudi. vous rappeler de ça. Et lorsqu'on regarde autour, même si vous allez sur Google Street View, vous voyez que le building monstrueux, c'est le Cecil Hotel. Donc, est-ce que c'était possible qu'elle habitait en face?
Ouais.
Mais en face, c'est pas un hôtel. Est-ce que son ami habite dans Skid Row? Bonne question.
Pour un jeune homme de 20 ans, ça serait...
Ouais. Donc, moi, j'ai de ce côté-là, l'ami d'Elisa Lam, c'est vraiment, pour moi, là, un mystère total. Et puis, peut-être qu'il en sait plus que nous, en fait.
Mais c'est que, oui, ça se pourrait, mais c'est qu'il y a tellement de coïncidences ou de mystères. Je sais, vous avez sûrement entendu parler du test là, contre la tuberculose, là, les vaccins là, que s'appelait Lam et Lisa. Ouais.
Oui.
Ça, c'est assez intense. Ou qu'elle avait parlé de cape d'invisibilité. Là. Vous en avez entendu parler?
Oui.
Sur son Twitter. Puis en face, en tout cas, il y en a beaucoup qui pensent qu'il y a les Illuminati impliqués là-dedans, puis qu'on en savait trop. Peut-être pas, mais il y a beaucoup de mystères dans cette histoire.
Un autre des cas qu'on a en commun, c'est le fameux cas de Maura Murray.
Oui.
Est-ce que tu pourrais, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous résumer un peu le cas de Maura Murray?
Oui, ben c'est tellement une longue histoire, là, je vais essayer de la résumer. Mais c'est en fait une jeune fille dans la vingtaine, 21 ans, je crois, qui est... Ouais, environ.
À peu près, ouais.
Qui est partie comme ça. Personne ne sait pourquoi. Elle a cherché des directions sur MapQuest. On ne sait pas pourquoi elle est partie.
Ouais, elle semblait planifier quelque chose, un voyage ou un départ.
Là, mm-hmm. Elle a même écrit à ses professeurs qu'elle partait parce qu'il y avait de la mort dans sa famille ou de la maladie.
Ce qui était faux.
Ce qui était faux, d'ailleurs, oui. Et dans un tournant dans le Vermont, c'est dans le Vermont, New Hampshire?
New Hampshire.
Ouais, New Hampshire, dans une rue qui tournait assez sec. Elle a fait un accident. Elle a jamais voulu appeler la police, d'ailleurs. Il y a les voisins qui ont entendu le gros boom, qui sont sortis pour lui demander si elle était correcte. Elle semblait correcte, un peu ébranlée. Puis, ils ont dit, est-ce que tu as déjà appelé la police? Elle a dit, oui, j'ai appelé AAA, ce qui était faux également, parce qu'il n'y a pas de réseau cellulaire dans le coin. Et on l'a plus jamais revu. Ben, c'est pour faire une histoire courte, c'est ça.
Quelle est ton opinion là-dessus? C'est sûr que c'est une grosse histoire. On pourrait sûrement en discuter pendant des heures. On en a déjà discuté pas mal aujourd'hui en dehors du podcast. Juste entre nous, parce que c'est une histoire trop passionnante. Quelle est ton opinion là-dessus?
Mon Dieu, j'arrive pas à me faire une... Je me fais une idée, puis là, j'écoute un argument, puis là, je me fais une autre idée, vous aussi. J'aimerais penser qu'elle est encore vivante, ça serait génial, là, ça serait, je sais pas comment qu'elle aurait pu faire ça, disparaître de la planète Terre, carrément. Mais je pense pas qu'elle soit vivante parce que en 2018, c'est assez difficile de disparaître comme ça, justement. Surtout que Maura Murray, là, on connaît son histoire, ça fait 20 ans presque, et on en parle toujours. Je sais pas. Je suis tellement partagée. D'après moi, je pense que genre, elle a eu vraiment une mauvaise chance. Peut-être que quelqu'un qui a essayé de l'aider parce que il y a vraiment des, comme ils disent, des dirt bags là, autour de l'endroit où elle a disparu.
Oui.
Là. Chaque voisin a un passé super criminel et tout. Ouais.
Oui, on dirait que c'est déjà orchestré d'avance.
C'est incroyable. Ouais. J'ai l'impression que peut-être qu'elle s'est juste fait enlever, quelqu'un qui a offert de l'aider, elle s'est fait enlever puis. Peut-être qu'il l'aurait tué,
Parce que c'est quand même facile, entre guillemets, de se débarrasser d'un corps. Tu sais, surtout qu'il y a du bois, Ils peuvent pas scanner tous les bois. Là, exactement.
Ouais.
Il y a une théorie qui avait été amenée par James Renner, puis avec qui on a discuté aussi dans un autre épisode, qui est celui du deuxième conducteur. Donc, potentiellement que Maura aurait été suivie par quelqu'un d'autre, un genre de complice dans sa disparition, qui fait en sorte que pendant ce très court laps de temps, pendant le temps où elle fait son accident, puis le temps où la police arrive, donc un délai d'environ 15 minutes, donc très, très, très court. Donc, ce conducteur-là aurait peut-être récupéré Maura en chemin dans ce très court délai. Qu'est-ce que tu penses de cette théorie-là, toi?
Ben, en fait, si c'était planifié qu'elle embarque avec lui, ma question est pourquoi elle aurait amené... Elle a préparé un sac à dos, elle a amené ses pilules contraceptives et tout, elle a tout laissé dans l'auto. Donc, si c'est son sac à dos, je crois qu'elle l'a récupéré.
Oui, je pense que oui, mais c'est l'alcool qui était...
L'alcool, elle a acheté le bouteille, elle l'a laissé dans l'auto, ses pilules, je veux dire, j'ai l'impression qu'elle a laissé beaucoup d'essentiels, un sac de maquillage, donc si elle planifiait partir en petit voyage avec une autre personne, j'imagine qu'elle aurait pris ça.
Ouais, effectivement.
Je crois.
Ben ouais, non, effectivement. Moi, je pense, j'ai toujours l'impression que tout ça est une mise en scène, justement, pour vraiment qu'on croit qu'elle était enlevée. Mais c'est vrai que moi aussi, ça me fait hésiter. La pilule contraceptive, les filles en ont quand même besoin, pour l'équilibre là, chimique. Donc, c'est moi aussi, c'est ça qui me chicote en tant que tel. Mais la théorie du tandem driver, j'ai quand même l'impression que c'est... Que ce soit un enlèvement ou un complice, j'ai quand même l'impression que c'est ça. Là,
c'est plausible.
C'est plausible, exactement.
Oui, parce qu'ils ont pas trouvé des traces de pas dans la neige.
Exact.
Ils ont perdu son odeur là, avec les chiens qui ont essayé de pister son odeur. Ils l'ont perdu à un moment. On pense qu'elle est embarquée dans l'auto en ce moment-là.
Puis il y a aussi la fameuse piste québécoise. On sait qu'il y a eu des témoins qui prétendent avoir vu Maura Marie, entre autres, à Québec, aussi à Sherbrooke, en Estrie, donc à différents endroits. Qu'est-ce que tu penses de cette piste québécoise?
Je trouve ça incroyable. Je ne sais pas si vous avez lu, mais il y a une femme en Floride aussi elle était dans une station-service. Elle a vu une voiture, puis elle a vu une fille dans la voiture qui a dit « C'est Maura Murray, c'est sûr que c'est elle. » Et elle a regardé les plaques de l'auto en Floride, c'était des plaques du Québec. Donc, pourquoi ça ramène toujours au Québec, c'est assez... À moins qu'il y ait une personne qui lui ressemble énormément, là, au Québec, elle a une sosie ici.
Ça se peut.
Mais les gens qui disent l'avoir vue, qu'il y en a même un qui a dit « Hey, Maura! » Puis elle s'est retournée, puis elle a fait genre... quand elle s'est rendue compte. Puis il y en a beaucoup qui disent lui avoir parlé, elle avait un accent anglais, et bon, ça aurait du sens que... Je sais pas.
Non, puis les lignes sont tellement pas loin, les lignes québécoises.
Exact. Du Vermont, puis
du Vermont, exact. Puis ça, tu peux traverser les bois, là. Pour avoir été aux douanes il y a pas longtemps dans ce coin-là, j'observais justement autour de moi pour voir comment qu'on pouvait traverser les douanes à pied. C'est pour les enquêtes. justement, je me disais, crème, c'est pas... Tu sais, oui, il y a certains bouts qui sont surveillés, mais si tu marches un petit peu, c'est très dense comme bois, mais il n'y a pas l'air d'avoir de clôture. Quelqu'un pourrait quand même, avec une bonne marche, circuler au travers des bois, puis justement aller au Québec et s'installer
carrément.
Tout bonnement. Là. C'est, puis des papiers d'identité... C'est dur de disparaître, mais ça reste que ça se trouve aussi.
Mais donc, vous croyez pas que sa mère est morte entre-temps pendant qu'elle était disparue? Vous croyez pas que si elle savait que sa mère était malade, elle serait retournée vers sa famille? Il y a tellement de « mais ».
Oui, effectivement, la mère...
Ben, si tu vas aussi loin que ça dans ta démarche de disparaître, je pense que tu dois sacrifier ce genre d'événements familiaux-là, même si... ça ferait du sens. Ouais. Je pense que si son but était de disparaître volontairement, évidemment, je pense pas qu'elle serait revenue, là.
Non.
Parce que je sais qu'il y a plusieurs, il y a sûrement eu plein d'autres événements comme ça qui sont arrivés depuis ce temps-là, puis qu'elle est pas allée, là, tu sais. Je pense que c'est une façon de, je pense qu'il faut vivre avec ça, du moins si elle est encore en vie, là, ce qu'on souhaite, là.
Parce qu'il y a trop de risques, là, en fait. Sinon, c'est vrai que ça ferait pas de sens, là. Elle a vécu sûrement son deuil, si elle est vivante, seule.
J'ai une question pour vous. Est-ce que vous croyez que son père l'a aidé à disparaître?
Avant, je croyais pas. Maintenant, on dirait que, justement, soit on fait toujours des recherches après, je l'élimine plus autant à 100% qu'avant. Il y a une certaine complicité avec elle, mais je me mets dans la peau d'un père... Et j'ai de la misère comment que tu peux volontairement, ou peut-être que, tu sais, à un moment donné, il a abdiqué aussi, là, tu sais, dans le sens qu'il pouvait pas la faire changer d'idée, puis tant qu'à ça, mais je sais pas jusqu'à quel point. Je pense que c'est un père présent qui l'aidait, tu sais, lui prêtait sa voiture, mais...
Je sais pas s'il est impliqué. J'ai l'impression que c'est sûr que Fran Murray, il y a certains comportements qui sont louches de sa part, notamment dans les recherches. Apparemment, qu'il était pas très collaborateur, qu'il faisait ses propres trucs de son côté. Par contre, c'est pas quelque chose qui incrimine quelqu'un.
Non, c'est peut-être par orgueil. Là.
Oui, exactement. C'était quelqu'un qui aimait pas trop non plus l'autorité et la loi en général. Un autre personnage assez intéressant dans cette histoire-là, c'est son ex, Bill Roush, en fait, qui lui est assez étrange aussi. Là, on parle du fait que bon, ça a pris quand même du temps avant qu'il rejoigne les recherches. Bon, apparemment, qu'il était à la base de West Point à ce moment-là, que c'était un peu compliqué. Mais lui aussi a un passé assez trouble. Il y aurait eu même des accusations là, de, je crois, je sais pas si c'est de harcèlement envers lui. Il y aurait même dit à une de ses ex, en fait, il l'aurait même menacé en lui disant, je vais te faire ce que j'ai fait à Maura. Ou genre, like I killed Maura. Donc, ouais. Est-ce que, bon, évidemment, cette phrase-là n'a pas été rapportée par lui, mais par son ex. Ça le place dans une drôle de position aussi.
Ouais, ça, moi je pense que peut-être c'était un homme assez abusif envers elle, violent. Même il y en a qui ont amené la théorie qu'elle peut-être qu'elle était enceinte de lui. Elle voulait pas avoir son enfant.
Ah oui.
Donc c'est pourquoi elle se serait enfuie enceinte pour avoir son bébé ailleurs. Ça pourrait être.
Ce qui pourrait expliquer les pilules contraceptives laissées dans la voiture.
Ah oui, ça se pourrait. Mmh.
Ouais. Moi, j'ai plus l'impression qu'elle se sauvait de tous ces gens-là plutôt que ces gens-là sont complices de sa disparition, finalement.
Surtout qu'elle avait déjà dit à son coach, je crois, qu'un jour, elle pensait disparaître, elle pensait s'enfuir de son monde et ça se pourrait. Ça, elle en avait déjà parlé avant, bon, pourquoi pas.
Un autre des sujets qu'on a en commun, qui peut faire beaucoup jaser, en fait, qui est très polarisé, c'est l'effet Mandela. L'effet Mandela, pour un peu vous rappeler c'est quoi, c'est un peu une distorsion de la mémoire collective, en fait. Hein, si on a l'impression d'avoir que quelque chose s'est passé et que finalement on se rend compte après avoir vérifié que c'est autre chose.
L'effet Mandela vient du fait qu'une grande partie de la population est convaincue que Nelson Mandela est mort en prison dans les années 90. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'effet Mandela, alors que, je veux dire, c'est pas le cas. Là. Nelson Mandela est mort plus tard, en fait. Exact. Mais il y a eu toute une vie après ça. Mais plusieurs personnes sont encore convaincus, en fait, là, qui ont vu les nouvelles à ce moment-là et que Mandela était décédé à ce moment-là. Donc, toi, Victoria, je sais que t'as couvert le phénomène, mais tu sembles pas trop fervente de cette théorie-là. Hein.
Non, mais je crois, j'aime bien l'idée de plusieurs univers ou d'un shift d'univers.
Oui, oui.
Je crois vraiment au multiverse, là, j'aime vraiment ça, mais en tout cas, je me sens pas personnellement concerné par les effets Mandela, j'ai l'impression que tous les exemples qu'on me donne, je dis, ben, c'est peut-être juste moi qui ai une mauvaise mémoire, puis maintenant que tu le dis, ouais, peut-être. Par exemple, Berenstain. Je veux dire, au Québec, je sais pas pour vous, je me rappelle des livres, je les avais, mais en même temps, c'est vraiment un phénomène américain, j'ai l'impression.
Oui, oui.
Genre, je connais aucun effet Mandela québécois, là, tu sais, un truc juste du Québec. Donc, j'ai l'impression que c'est juste des références américaines. Puis bon, comme vous dites, les films, mais des fois avec la traduction, peut-être
ça, en fait.
Ouais, c'est ça, la traduction ou la merch, la marchandise qui est sortie après, qui l'ont mal fait, tout simplement. Je pense qu'il y a une explication assez simple pour ça.
Parce que soyons clairs, il n'y a aucun Africain qui croit que Nelson Mandela est mort dans les années 90 en prison.
Oui, c'est ça.
Non, exact. On l'avait soulevé, ça, quand même, que l'effet Mandela est nord-américain.
Oui, vraiment, c'est ça.
C'est comme pas ailleurs.
Oui.
C'est vrai que c'est quand même étrange, mais il y a plusieurs cas, quand même, que je trouve qu'il y a quelque chose de drôle, de bizarre. Mais bon, c'est...
Surtout les oursons Berenstain, je dirais que moi, j'ai fait... À ce moment-là, j'étais bafoué par ce phénomène-là quand je suis tombé là-dedans. Puis j'avais fait un test sur Facebook en demandant aux gens, sans googler, quel est le nom de cette famille d'oursons. Puis j'ai posté une photo avec la famille d'oursons sans le titre. Puis j'ai beaucoup d'amis américains ou collègues. Puis c'était à 100% là, les réponses. C'était les oursons Berenstain, alors que c'est Berenstain avec un A. Et c'est là que je me suis dit, moi, je n'ai pas la référence. Moi, je me rappelle pas là, si c'était Stain ou Steen.
Non, non.
Personnellement, j'ai aucune idée. Mais la réponse était flabbergastante. En fait, tout le monde disait que c'était Berenstain et personne ne se rappelait que c'était Berenstain. Donc, c'est clair qu'il y a un phénomène très américain là-dedans, mais il y a quelque chose. Là. C'est clair qu'il y a une distorsion de la mémoire collective là-dedans. Là. Autre histoire, tiens, une des vidéos moi que j'ai beaucoup aimé de ta part, Victoria, puis qui a même nous a amené quand même de l'inspiration pour Distorsion, c'est la vidéo sur le Pizzagate que des gens avaient partagé à l'époque dans notre groupe. Et bon, le Pizzagate, on se rappelle, c'est cette conspiration comme quoi le groupe là, de le parti de Hillary Clinton serait impliqué dans un réseau de trafic d'enfants ou de pédophilie là, juvénile qui aurait élu domicile au sein du Comet Ping Pong, donc une pizzeria à Washington. C'est dur de résumer ça. Ouais. Il y a tellement d'éléments, il y a tellement de rabbit hole dans lequel tomber que ça devient vraiment un phénomène plus grand que nature. On l'a couvert à Distorsion, et toi aussi. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce côté-là, du Pizzagate? Est-ce que tu es une adepte de la théorie de la conspiration?
Oui, je pense que c'est la théorie que je crois le plus. Surtout, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur Nickelodeon, que aussi, on pense qu'il y a plusieurs réalisateurs, plusieurs acteurs ou des agents d'enfants qui seraient impliqués également dans un réseau de trafic d'enfants ou de pédophilie. Puis il y a des photos assez folles, je sais pas. Nickelodeon, je sais pas si... En tout cas, dans la vidéo, je parle que le directeur, il a demandé aux milliers d'enfants qui regardaient l'émission Sam & Cat d'envoyer une photo de leurs pieds.
Oui, oui, oui.
Écrit Sam & Cat. C'est assez bizarre de demander des photos de pieds d'enfants. Mais pour revenir à Pizzagate, je sais que c'est une théorie tellement farfelue. Genre, il y a une pizzeria, puis il y a des enfants kidnappés dans la pizzeria. Mais
ce qui était vraiment le core de ça, c'est vraiment les codes utilisés dans les courriels et les échanges qui avaient toujours justement un lien avec la pizza. Donc, c'était ça aussi qui nourrissait encore plus le fait que ça soit dans une pizzeria.
Puis c'est que, Cheese Pizza, c'est quand même connu sur 4chan et tout que c'est child pornography. Non, c'est vraiment... je sais pas comment... Il y a tellement... Je me rappelle pas, en plus, ça fait quand même longtemps que j'en ai parlé, mais tu sais, toute l'histoire des bandanas aussi, là, les couleurs des bandanas aussi, ça, c'est quand même connu dans le monde... je connais pas le monde de la pédophilie, mais tous les signes... je sais pas, c'est difficile de pas y croire, il y a trop de coïncidences. Mais je pense que ça serait pas juste Hillary Clinton qui est impliquée. Je pense que c'est genre le monde de la politique américaine ou internationale au complet.
Ou si ça se trouve, peut-être même qu'Hillary Clinton n'est pas impliquée.
Ouais,
des gens sont son parti.
Ouais, parce qu'elle, dans le fond, c'est juste à cause de WikiLeaks là, qu'elle a...
Ouais.
Ouais,
elle mais il y a quand même impliquée. Mais il y a eu des discussions entre elle et John, là, mais...
John Podesta.
Podesta, avec des codes... mais c'est vrai que la majorité des courriels échangés par Podesta, c'était avec d'autres personnes qui avaient les codes, justement. Mais ce qui était étrange aussi, c'est que Podesta, avec son amour pour l'art
quasiment étrange,
pédophile, là, t'sais, avec des enfants en cercle ou dans des piscines, morts, c'était ça aussi qui... Ouais. Tout ça nourrit, hein, en fait, cette théorie.
Ça nourrit plus que ça incrimine, tu sais, parce que
t'as raison.
Tes goûts artistiques n'ont rien à voir. Tu peux jouer à des jeux vidéo très violents sans être un tueur en série, évidemment. Mais comme tu dis, Seb, ça nourrit le mythe derrière, ça nourrit la légende urbaine. Non, c'est vraiment difficile de tirer une conclusion là-dessus sur le Pizzagate.
Surtout avec tout, c'est ça, les courriels et tout, mais est-ce que vous avez vu la théorie que John Podesta et son frère, je me rappelle pas, Tony Podesta, qui aurait kidnappé en fait Maddie McCann, vous avez vu cette théorie?
Oui.
Croyez-vous?
Je mets pas beaucoup de poids, on dirait, dans cette théorie-là. Ce qu'on disait, c'est que je sais qu'il y a eu des sketchs, des portraits robots qui ont été faits, puis là, ça ressemblerait aux frères Podesta, mais par la suite, apparemment que c'était deux croquis différents de la même personne.
Ah, OK.
Donc, c'était pas, selon des sources que j'ai lues, là, ça veut pas dire que c'est la vérité infuse, mais encore une fois, c'est sûr que je pense que les deux étaient au Portugal au moment où Madeleine McCann a été kidnappée. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette...
Pourquoi pas? Parce que, d'après moi, Maddie McCann, elle a été kidnappée, justement, dans une affaire de réseau prostitution d'enfants, ou je sais pas, ou ses parents l'ont tué, mais ça, c'est, une autre théorie. Ouais. Mais c'est vraiment un drôle de hasard, parce que qui pourrait kidnapper une petite fille comme ça? Ça serait des gens assez puissants qui seraient capables de pas se faire retrouver après autant d'années. Fait que pourquoi pas? Je pense que ça pourrait être possible.
C'est surtout ce qui est troublant, on dirait, avec le Pizzagate, c'est qu'il y a plein de choses dont, surtout, je dirais, le gouvernement américain, en fait, nous a donné des munitions pour croire, tu sais.
Oui,
parce que, du trafic d'enfants, c'est prouvé. Il y en a eu. Il y a des gens qui se sont fait arrêter pour ça. Il y a des gens dans la politique, ou que tu l'as dit, dans des studios de Nickelodeon qui ont été impliqués là-dedans. Il y a tellement de conspirations qui sont plus vraies que nature que ça fait juste nous inciter à croire à ce type de conspiration-là.
Vraiment, surtout, il y a un email, là, ça, moi, ça m'avait tellement choqué. C'était Obama qui a envoyé un email pour... il organisait une fête à la Maison-Blanche, puis il avait besoin de genre 1 million de dollars de pizza, genre quelque chose comme ça, je me rappelle pas du email.
Et des hot dogs.
Et des hot dogs, okay,
oui, exact. Ça, c'était bizarre. Que là,
tu... Ben oui, en tout cas.
C'est ça qui est bizarre.
C'est un code, là. C'est... Moi, je suis sûre, tellement. C'est triste, là, mais au Québec, on l'a vu, là, dans... Même au Québec, il y a eu vraiment un gros réseau de prostitution juvénile. Ben oui, ben elle s'impliquait par gilet et tout. Pourquoi pas aux États-Unis?
Ah, c'est sûr. Ben
oui,
ça.
Effectivement, ouais. Là, avec des gens avec du pouvoir.
Et... Ouais.
Est-ce qu'il y aurait une histoire de ton côté avec un angle numérique à la distorsion que tu aimerais que nous, on investigue dans le futur? Y a-tu un cas que tu aimerais nous soumettre?
Oui, absolument. Je vous ai parlé. Moi, j'ai écouté cette histoire sur un podcast aux États-Unis, mais ça m'a tellement là, marqué. C'est à Boston depuis les années 2000. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire.
Oui, vas-y.
Depuis les années 2000, à Boston ou dans le coin de Boston, Massachusetts, il y a... je pense à peu près une quarantaine d'hommes qui ont disparu et on les retrouve toujours, genre, une semaine plus tard ou un mois plus tard dans la rivière Charles River. Ouais. Et ben, ce qui est étonnant, c'est que tous les hommes ont à peu près le même profil. Ce sont des étudiants, ils sortent boire avec leurs amis, ils disparaissent durant la nuit, puis finalement, on les retrouve. C'est pas des hommes suicidaires, c'est pas... c'est toujours, là, il y en a un, là, une fois, c'est un gars qui... Il attendait là, sa copine qui venait le chercher. Il était au téléphone, elle était là. J'arrive dans 30 secondes, je suis au coin de la rue. Il dit « OK, je t'attends ». La copine est arrivée, oui. Il était disparu, oui. Là, puis ils l'ont retrouvé 2 jours après dans la rivière.
Ouais. Ah, c'est un des qui m'a le plus traumatisé dans toutes les disparitions.
Ouais. Oui,
c'est
oui.
Ça, c'est que ça arrive toujours ad hoc, le poc de même, sans avertissement.
Puis même qu'il y en a un qui s'est... Il était avec son ami, il marchait sur le pont. Son ami, il a collé un taxi. Genre, il a levé la main, puis le gars s'est pitché dans l'eau. Il s'est jeté dans l'eau, genre, puis il est mort. Puis pourquoi l'angle numérique, c'est que... Bon, il y en a beaucoup qui étaient au téléphone, il y en a un sur Snapchat, il envoyait des Snapchats quand il est disparu, mais aussi, c'est qu'il y a beaucoup de caméras de surveillance qui captent ces moments-là et sont pas... la police ne veut pas les montrer. Même qu'il y en a un qu'on... Il y a un cas d'un homme aussi qu'on le voit « to enter the water », ils disent... Oui. On le voit entrer dans l'eau.
Entrer dans l'eau.
Entrer dans l'eau. OK, est-ce qu'il est entré en marchant? Ouais, est-ce qu'il s'est jeté dans l'eau? Est-ce qu'il est tombé? On ne sait pas, mais la police ne veut pas donner de détails, fait que je pense que vous pourriez vraiment
s'intéresser
à ça. C'est
bon
incroyable.
Ouais. Très bonne suggestion. Il faudrait qu'on s'attaque à la disparition de 40 personnes dans la région de Boston. Seb, c'est un beau mandat.
Oui, quand même. Mais moi, quand je l'avais vu, cette vidéo-là, j'ai été vraiment traumatisé.
Moi aussi,
c'est
puis on en parle
bizarre.
Pas.
Non, vraiment. Non, moi, j'avais l'impression que... C'est parce que c'est pas fait en plus sur de longues années. Il me semble que la période de temps n'est pas si longue que ça non plus. Est-ce que c'est une seule personne qui fait ça? Est-ce qu'il y a un courant magnétique? Parce que c'est vrai qu'il y a même le comportement des gens est étrange. Moi, c'est là que je te dis, est-ce que c'est vraiment quelqu'un? Y a-tu des ondes? Tu sais, des fois, les gens peuvent être sensibles à ça. Il y a des gens qui sont sensibles. Puis que ça peut-être rendre fou un petit court laps de temps qui fait que...
Genre, comme des gars dans la vingtaine, étudiants, des gars sûrement un peu plus intelligents que la moyenne, je sais pas, peut-être que ça va juste affecter ceux-là, en état d'ébriété, bon, puis c'est pas qu'ils tombent, parce que c'est impossible de tomber, difficile de tomber dans la rivière, Charles, ouais, c'est intéressant.
Non, vraiment, on en prend bonne note.
Oui, s'il vous plaît.
C'est le moment de passer aux questions des auditeurs, parce qu'on a eu une tonne de questions pour toi, Victoria. Je crois qu'on a eu environ 75. On a choisi quelques-unes. Là, on en a regroupé quelques-unes aussi, parce que souvent, les mêmes questions revenaient. Tiens, je commence ici par une question de Cindy, qui te demande « Comment la belle Victoria prend les commentaires négatifs? » Parce qu'on le sait, sur YouTube, c'est pas tout le monde qui est gentil.
Non, mon Dieu. Je pensais que j'étais hyper sensible comme fille, mais je me rends compte que j'ai le dos plus large que je pensais. Il y a des commentaires qui... Bon, les commentaires sur mon accent, à un moment donné, j'en reviens, là, c'est toujours « ton accent est dégueulasse, ton accent est horrible » ou « j'adore ton accent », fait que c'est tellement partagé. Ça va.
Nous, on se fait dire qu'on sonne comme dans des sketchs parfois.
Ouais. Ah ouais.
Des sketchs français.
Ben, c'est ça. Regarde les accents, il y en a partout. Ça dépend. Il y en a un que. Il y a des commentaires qui m'affectent, comme de quoi que je maltraitais mes chiens parce qu'ils jappaient pendant mes vidéos. Ça me. Tu sais, je suis la fille là, qui adore ses chiens. C'est incroyable. Ça m'a tellement affectée. Mais c'est souvent assez. Des commentaires assez futiles. Puis je pense que je prends même pas le temps d'y répondre ou qu'est-ce que je vais répondre, je bloque la personne du setup. Je me dis, c'est ma chaîne à moi, je veux pas ce genre de commentaires.
Ah non, tu fais
mais
bien.
Oui.
Des fois, je réponds genre, OK, cool, ou bye, mais genre, va-t'en de ma chaîne, mais bon, C'est ça, faut pas trop. Hein.
Une autre question de Guylaine qui nous dit « Allô Victoria, tu parles parfois que tu as un travail à temps plein et que tu fais une maîtrise en plus de tes vidéos YouTube. J'aimerais savoir en quoi consiste ton travail et ta maîtrise et comment tu entrevois l'avenir pour tout ça. »
Quel est ton plan quinquennal, Victoria,
ouais,
s'il
te plaît?
Oui, c'est ça. Ben oui, je suis professeure à temps plein, ce qui est... Ben, vous savez, là, la vie des professeurs, là, c'est assez difficile, la correction et tout, avec YouTube. Et je fais également une maîtrise à distance. Je suis à l'étape d'écrire mon mémoire. Et ça, je suis vraiment à mon compte. Là. Si je mets pas du temps...
Ça avance pas.
Ça va, là. J'ai comme... Il y a eu pas une étape difficile, mais avant de... Je pense, je te dirais, les 3-4 derniers mois, je disais à mon chum, je pense que je vais faire un burn-out. C'est pas vrai, là, mais j'en avais trop.
C'est normal.
Je tombais malade. J'avais une heure de libre par jour, puis je réponds à des messages sur mon téléphone en regardant la TV parce que... Donc, ben là, en ce moment, je vais commencer à travailler à temps partiel à mon travail de professeur. Fait que ça va me donner quand même des après-midi libres. Ça va vraiment aider parce que c'est impossible de tout faire en même temps. Puis ça, j'ai même pas d'enfants ni rien. J'imagine même pas si j'avais des enfants. J'espère qu'un jour, je vais juste pouvoir me dédier à YouTube. C'est vraiment...
Ben, les chiens, c'est des enfants un peu.
Aussi, ben oui, ils demandent l'attention.
Aussi, prochaine question qui nous vient de Van XXOMA. Ça ressemble à un pseudo Instagram, ça. Qui nous dit « Question pour Victoria. As-tu peur après le tournage d'une vidéo? Si oui, quel est le sujet qui t'effraie le plus à filmer, en parler? Bisous!
» Bisous, Van. Je sais pas. Mais je pense que j'ai jamais vraiment eu peur. Depuis que je suis toute petite, les films d'horreur me font pas peur ni rien. Et là, je sais pas pour vous, mais on devient comme immunisé, non, aux histoires, là. Peut-être qu'il y a des histoires, là, mettons des vidéos paranormaux et tout. J'ai de la difficulté à regarder ça toute seule chez moi quand mon chum est parti en voyage, par exemple. Mais c'est pas si pire. Il y a deux, trois vidéos qui m'ont fait peur. C'est ben, Elisa Lam. Après, il y a une vidéo justement sur Maura Murray, un montage, là, tu sais, avec l'homme qui rit. Puis, je sais pas
si... oui.
Ah, ça m'a fait peur. J'ai fait des cauchemars. Ouais. Mais sinon, non, il y a rien qui me fait extrêmement peur, même que... Mais je me trouve bonne, même. Parce que
de pas avoir...
Ouais, je confronte mes peurs.
Nous, à Distorsion, on a tendance, des fois, à être un peu parano, étant donné qu'on voit souvent, on parle souvent de sécurité web, de réseaux sociaux et tout ça, puis de conspiration. Toi, de ton côté, est-ce que tu dis que t'as plus peur, mais est-ce que tu développes pas une certaine... méfiance ou une paranoïa envers différentes personnes ou différents groupes?
Oui, des fois, je m'imagine, je suis en train de conduire, je m'arrête à une lumière rouge, je dis, là, qu'il y a quelqu'un qui peut entrer dans ma voiture puis me kidnapper. Ou oui. Genre, en sortant de mon auto, là, je me dis, OK, ça serait vraiment facile de me kidnapper puis me violer ici. Mais honnêtement, non, puis j'ai l'impression que je suis moins crédule à certaines... J'ai tellement fait de recherches sur les Illuminati et tout... Oui, j'y crois à certains trucs, mais mes abonnés qui découvrent ça pour la première fois, là, ils croient à tout ce qui est Illuminati. Ouais. Mais quand t'as plus de vidéos que tu vois, moins tu y crois genre à 100%. Je sais pas. Ça doit dépendre des types de théories, ouais.
On a une autre question de M. Dessine, qu'on salue particulièrement.
Oui.
Et donc, question pour Victoria, quelle histoire as-tu trouvé la plus fascinante?
Ah, je vais sortir de Maura puis Elisa, là.
Ouais.
c'est vraiment une bonne question. Mais toutes les histoires sont assez passionnantes. Mais là, j'ai fait plusieurs recherches pour des sujets à venir. J'ai comme pas envie de les dire.
Pas divulgage,
non,
c'est ça,
mais hein. Les histoires les plus fascinantes, moi, je trouve toujours que c'est des disparitions. Je parle beaucoup de tueurs en série, d'histoires de meurtre, de théories du complot, mais les disparitions, là, c'est tellement bourré de mystères qu'on peut pas faire autrement.
Tu disais tout à l'heure que une des premières vidéos que tu as fait, c'est sur Lars Mittank. Mm-hmm. Et moi, c'est une histoire que j'ai trouvée quand même assez fascinante. Là,
oui.
Parce qu'on a très peu d'indices. Je sais pas qu'est-ce que tu en as pensé de cette histoire-là.
Mais surtout que c'est dans une autre langue. Hein. Lui, il parlait allemand ou...
Je crois, oui.
Oui, je pense allemand. Fait que c'est difficile pour nous de voir les nouvelles à ce sujet. Oui, je sais pas. J'ai même pas de théorie tant que ça sur le sujet. Je trouve ça juste... Ça donne froid dans le dos quand tu le vois courir de l'aéroport, là, l'aéroport.
Ah oui.
Ah, c'est ça, ouais.
Rapidement, pour le bénéfice de nos auditeurs, parce que nous, on ne l'a jamais couvert, Lars Mittank est en visite, je ne sais plus trop où, en Angleterre ou en Écosse, je crois. Il s'est battu dans un bar, corrige-moi si je me trompe, Victoria, et puis il y a eu une blessure à l'oreille, en fait, qui l'aurait gravement affecté. Et il serait allé voir un médecin pour ça, puis aurait décidé de quitter, en fait, de retourner chez lui assez rapidement. Par contre, ses amis sont retournés avant lui, donc lui était le dernier à repartir, et on le voit via des caméras de surveillance, il entre à l'aéroport, il va dans le bureau du médecin à l'aéroport, et soudainement, et on voit tout ça sur les caméras de surveillance, ouais. Il ressort à la course, il sort dans le stationnement de l'aéroport, il saute par-dessus une clôture, et on ne le reverra jamais.
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 C'est vraiment, vraiment étrange.
Bon, peut-être qu'il est encore... Moi, je pense qu'il est encore là-bas en train de errer... Il a perdu la carte, d'après moi.
Encore après tout ce temps, je sais pas. Hein.
Il y a même des gens qui disent qu'ils l'auraient retrouvé là, cette année, en 2018. On sait qu'on est l'année où tous les crimes sont résolus. Là. Entre autres, grâce au crowdsourcing d'ADN.
Exact.
Mais pas de preuve finale là, sur le cas de Lars Mittank.
Ça, c'est fascinant, c'est vrai.
Autre question, tiens, qui nous vient de Amandine Pirenne, qui nous dit, question pour Victoria, est-ce que ce n'est pas trop compliqué de gérer YouTube et ta vie personnelle?
Non, mais comme j'ai dit, c'est le maîtriser le temps et tout. Non, ça va, parce que comme je vis au Mexique, on dirait que YouTube, les gens au Mexique, ils savent pas que je fais YouTube. Et
ouais, tu peux marcher dans la rue tranquille.
Ouais, c'est ça. ici aussi. <là. rire> Non, à date, en ce moment, je vois pas comment ça affecte négativement ma vie personnelle. C'est juste un plus là, d'avoir toujours des beaux commentaires et des messages privés. C'est cool.
Oui, on a une autre question de Louisa Abjir. Ma question est, as-tu déjà vécu des phénomènes paranormaux?
Non, malheureusement. Non. Tout le monde me demande toujours. Ouais, j'aimerais tellement. En plus, j'aimerais ça d'en vivre. Puis c'est pas que j'ai pas essayé. J'ai tellement joué au Ouija plein de fois dans ma vie.
Pour vrai, moi, j'ose même pas jouer. J'ai trop peur.
Non,
j'ai trop peur que ça ouvre une porte.
C'est... Ouais, ben c'est ça qui dit. Ben ça bougeait là quand même, mais j'ai jamais eu aucun phénomène paranormal. J'aimerais ça d'en vivre. C'est pas genre manque de volonté. Ouais, ouais. Mais non, j'en ai pas vécu malheureusement.
Ça règle la question. Une autre question qui nous vient de 428 Léonie, donc de Léonie, qui nous demande, question très intéressante ici que je me pose moi aussi, quel genre de personne étais-tu au collège ou au lycée? Est-ce que tu étais plutôt discrète, extravertie, intello?
Bonne question.
Sportive.
Non, sportive, non. J'étais dans l'équipe, ok, je vais vous donner une image, j'étais dans l'équipe des cheerleaders,
okay.
Puis je sortais avec le quarterback des footballeurs, oh. Ouais. Non, j'étais assez extravertie d'après moi, pas intello du tout, ben j'avais des bonnes notes, ouais. J'aimais la littérature, j'aimais lire.
T'es pas nerd, là.
J'aimais me donner le look nerd, puis genre avoir mon livre mystérieuse. Non, mais très...
Étais-tu une fan d'Harry Potter?
Oui, non, Twilight.
Ah ben ah, oui, oui. Ouais.
Moi, c'était la génération de Twilight.
Oui, c'est vrai.
Non, Harry Potter, je l'ai pas tellement lu, mais... Ouais, je pense que extraverti, ça pourrait me décrire.
T'as pas changé
là.
Dans un sens.
Je non, veux dire,
t'es
pas
un peu la même personne, on grandit, mais, ouais. Mais ta personnalité même est pareille.
Oui, là. J'ai toujours eu la facilité à communiquer avec les gens. Ouais.
T'étais pas gothique comme moi, je croyais.
Pourquoi tu croyais?
je pense qu'il aime ça s'imaginer gothique. Ça. Il aime les contrastes. On a une autre question de Elena VWGL. Coucou! Voici ma question. Comment trouves-tu toutes tes idées de vidéos?
Bonne question. Plusieurs de mes abonnés me recommandent des idées, même que des fois, ça en est pas trop, là, mais j'imagine que ça vous arrive aussi, là, des emails que je reçois dans tous les commentaires, des questions sur Instagram. Puis, souvent, ça arrive souvent que j'ai déjà parlé de la vidéo, la personne a mal regardé.
Oui, ça arrive.
Ouais. Ou c'est des sujets qui m'interpelle pas, puis je me le fais toujours demander jusqu'à temps que je fasse la vidéo, là. Donc, c'est vraiment les gens, sinon, encore là, sur Reddit, dans les No Sleep, là, c'est souvent de la fiction, ça,
ouais,
mais
c'est
des fois,
des
ça peut...
Pasta, ouais.
Mais je pense que c'est ça, le principal.
Une autre question qui nous vient de Raven Reborn 1998. Coucou, question pour toi. Comment trouves-tu ta vie au Mexique? L'adaptation, la vie et la distance, et aussi des projets futurs autres que ton mariage?
Oui, ben la vie au Mexique, j'en ai parlé dans quelques vidéos. Je vais peut-être faire plus de vidéos sur le sujet. C'est vraiment différent d'ici. Mais moi, je suis quand même une chialeuse, fait que je vais chialer du Québec au Québec, puis je vais chialer du Mexique au Mexique. c'est sûr que j'aimerais ça continuer avec YouTube, puis grandir sur YouTube. C'est genre mon rêve là. J'ai toujours voulu travailler à mon compte, travailler de la maison. Donc, j'adorais ça. Je sais pas, là, écoute, j'ai 26 ans, peut-être dans quelques années, avoir des enfants. Et...
Une autre question de Government Hooker.
Le meilleur nom jusqu'à date.
Vraiment. Salut Victoria. Est-ce que tu as parfois eu des retours des familles, des personnes dont tu parles dans tes vidéos? Est-ce que tu as déjà eu peur de parler d'un sujet qui soit par rapport au fait en lui-même ou par rapport aux répercussions que ça pourrait avoir de la part des familles ou d'un point de vue de confidentialité?
Non, parce que... j'ai déjà eu des retours de la famille. Trois personnes. J'ai eu la disparition de David Fortin. Oui. Souvent, j'envoie la vidéo à la famille pour pas qu'elle tombe sur ma vidéo. C'est qui, elle, qui fait des vidéos sur mon fils?
Bien sûr.
Genre... Ah, mais c'est déjà une bonne attention de l'envoyer.
Je le fais pas toujours. Par exemple, les familles en France, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est plus loin de moi, mais les Québécois, je sens le besoin.
Oui, je comprends.
David Fortin, oui, sa mère était quand même touchée que je parle de son fils. Surtout que c'est une histoire, on n'en parle pas tellement. Donc, c'est bien de divulguer l'information. Sinon, il y a Marilyn Bergeron aussi, que ça, c'est un cas intéressant. Oui. Que sa mère aussi était touchée. Puis depuis ce temps-là, elle m'envoie toutes les conférences de presse qu'elle a eues. Oui, elle m'envoie l'adresse et tout. Ouais. Okay. J'imagine que je suis sur la liste d'envoi, tout simplement.
Oui, mais quand même.
Et il y a une famille américaine, Charles Allen, que j'ai parlé dernièrement sa disparition. Sa mère, elle me dit « Wow, thank you very much ».
Ah oui, OK, t'avais pris la peine d'y envoyer.
Parce que c'est comme des cas qui sont pas tellement médiatisés, donc c'est intéressant pour eux. Le plus qu'on en parle, le mieux c'est.
Oui, il y a plus de chances aussi de résoudre.
Puis la confidentialité, non, parce que toutes les informations que je trouve, c'est sur Internet et c'est déjà des informations publiques, donc j'ai aucune peur parce que souvent, je partage même pas ma théorie vraiment, je fais juste donner les informations. Ouais. Donc, oui.
Une autre question qui nous vient de Juste Berger 08 qui nous demande « Allô Victoria, quelle histoire, paranormale, meurtre, etc. t'a le plus affecté ou traumatisé? »
Oui, je pense que Cédrica, là, Provencher, nous a affecté à tous les Québécois. Toutes les histoires d'enfants, là, de meurtre d'enfants, là, j'ai parlé du petit James Bulger, là, ça fait 2 semaines, c'est horrible, là, c'est... Puis j'ai même pas d'enfants, je sais même pas quand je vais avoir des enfants, je vais être capable de parler de ça, mais je pense que c'est toutes les histoires d'enfants.
Non, c'est vrai, nous aussi, on est pas tout le temps à l'aise avec ça.
Non, puis, c'est vraiment dur.
Comme tu disais, Cédrica, on dirait que c'est encore tout frais chez les Québécois, même si ça l'est de moins en moins, en fait.
C'est
un sujet qui est encore assez délicat.
Non, effectivement. J'ai même une amie qui m'a amené une théorie sur Cédrica, mais pas pour son enlèvement, mais l'effet social que ça l'a eu. C'est que dorénavant, depuis ce temps-là, les parents sont beaucoup plus craintifs de laisser aller leur enfant en liberté. Puis un de mes amis a dit, tu remarqueras, là, depuis cette année-là, il y a une coupure, puis elle appelait ça l'effet Cédrica Provencher. Puis c'est pas faux, là, si on se rappelle, nous, quand on était jeunes, nos parents nous laissaient jouer partout. Puis c'est vrai que maintenant, on dirait qu'on n'ose même pas imaginer quasiment aller laisser nos enfants, là, je parle des jeunes enfants, là, aller les laisser aller à l'école seuls, comme nous, on y allait à pied à l'époque. Donc, il y a eu, puis je suis d'accord avec cette théorie-là, là, que ça a peut-être même eu un impact social at large sur le comportement des parents et la crainte que notre enfant se fasse enlever et tuer.
Oui, ça a été un réveil pour les Québécois, cette histoire-là.
Vraiment négatif, en fait.
Oui, malheureusement.
Justement, en parlant de la cause de Cédrica et des enfants, on a une question de Nina Falls et elle te demande « Si un jour tu as des enfants, est-ce que tu penses que tu les surprotégerais à cause justement des vidéos de disparition? Ça te rend-tu plus paranoïaque? »
Mais j'ai pas d'enfant. Vous savez, j'ai pas d'enfant. Mais on dirait que je suis pas capable de m'imaginer. Je suis vraiment surprotectrice. Je sais tellement pas quel genre de mère je vais être. Je sais qu'avec mes chiens, là, je suis tellement surprotectrice. J'imagine même pas avec des enfants j'imagine que je vais être complètement paranoïaque. Mais je sais pas l'effet d'avoir des enfants. Fait que je peux pas répondre. C'est difficile.
C'est bon.
On a aussi plusieurs questions de plein de gens là, qu'on a regroupés. Seb, je te laisse y aller.
Oui, penses-tu un jour te consacrer justement à 100% à YouTube et gagner ta vie avec ça?
Ouais, je pense que c'est le rêve de tous les YouTubeurs, podcasteurs, là, de genre juste gagner sa vie avec ça.
Effectivement.
Bon, ben c'est sûr qu'il y a beaucoup... Sur YouTube, en tout cas, en ce moment, avec toutes les démonétisations, surtout mes vidéos, elles sont vraiment affectées par ça. Mais je pense que oui, surtout que je vis au Mexique et ben les publicités YouTube et tout, c'est en dollars américains. Fait que pour moi, c'est vraiment facile. Mais les YouTubeurs au Mexique pourraient jamais, presque pas gagner leur vie parce que c'est en pesos. Puis ça fait une grosse, grosse différence, ça. Mais je souhaite, là, oui, vraiment.
Non, effectivement. Puis si un jour Facebook se met à monétiser les créateurs, j'imagine que tu vas migrer aussi ces vidéos-là.
Mais c'est que YouTube, Facebook, ça doit être... C'est des vidéos très courtes, rapides. Je pense pas qu'il y ait des histoires de disparition. Je sais
pas. La plateforme change, par
contre. Oui, c'est vrai, t'as raison.
Mais bref, autre question. Penses-tu un jour faire d'autres types de vidéos, sortir un peu de ta ligne éditoriale?
Oui, des vlogs au Costco, mettons. Oui.
Non, je pense pas. J'ai déjà fait un vlog là, une fois, genre une journée dans ma vie pour montrer ma vie au Mexique.
Ah oui, mais ça, les gens aiment ça. Là.
Ouais, c'est ça. J'en fais une fois de temps en temps, juste quand l'inspiration me donne, quand j'ai le temps. Mais non, je pense pas. Je pense que j'ai vraiment trouvé ma passion sur YouTube.
Tu nous parleras pas du dernier mascara mexicain en vogue.
Non, inquiétez-vous pas.
Et dernière petite question, vas-tu faire des meet-ups à Québec ou Montréal?
Les fameux
au
meet-ups.
Au Québec, du moins. Ben oui.
Avec nous, idéalement.
Ouais, ça serait cool. Mais je sais pas, il y en a... Comme je viens rarement, j'ai une fois par année ici, il y en a tellement qui m'ont demandé là, cette fois-ci que je venais de les rencontrer, mais je suis tellement pas ici longtemps. Puis je trouve que c'est de l'organisation que j'ai... Je sais pas, ça me stresse, là. Mais s'il y a un événement genre Oh My Fest et tout, que je suis invitée, évidemment que je vais y aller, là, ça me ferait plaisir.
Yes, ben ça conclut les questions de nos auditeurs, Victoria. Encore une fois, ben on te remercie d'être avec nous en studio, en chair et en os.
Oui, ouais. Merci à vous.
Ben oui, on aurait pu faire cette entrevue-là, évidemment, via Skype, mais c'est bien plus le fun en personne.
Vrai, ben oui, bien sûr. Mm-hmm. En plus, on a de la vraie bière mexicaine.
Oui, yes, en plus, sir. Ben oui, smugglée directement de Monterrey. Puis donc, on te remercie, Victoria. Si vous voulez aller voir ses vidéos, évidemment, vous pouvez le faire sur YouTube, sur sa chaîne Victoria Charlton. Mm-hmm. Donc, assurez-vous d'aller vous abonner. Mm-hmm. Et puis, ben, même chose dans le concept, vous savez, Victoria est avec nous aujourd'hui et en même temps, au moment où vous nous écoutez, vous pouvez aller sur sa chaîne voir la collaboration qu'on a fait avec elle pour le cas de Skylar Knees. Donc, ben merci beaucoup, Victoria, de t'être prêtée au jeu.
Merci. Merci à vous de m'avoir invité.
C'était vraiment cool.
Oui.
Yes. Et là-dessus, eh bien, on se dit à la prochaine et on vous revient très bientôt.
Et d'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out.
Oh oui. We'll be right back.